David Hume, Essai sur le platonicien. Traduction de M. Philippe Folliot, avec l'autorisation du traducteur. Le platonicien. Il paraît surprenant à certains philosophes que tous les hommes possédant la même nature et étant doués des mêmes facultés puissent cependant différer si largement dans leurs aspirations et leurs inclinations, et que l'un condamne entièrement ce que l'autre recherche comme un forcené. À certains, il paraît encore plus surprenant qu'un même homme diffère si largement de lui-même à des moments différents, et qu'il rejette avec dédain quand il le possède ce qui était auparavant l'objet de tous ses vœux et tous ses désirs. Selon moi, cette incertitude et cette irrésolution fébrile dans la conduite humaine semblent entièrement inévitables, et une âme raisonnable, faite pour la contemplation de l'être suprême et de ses œuvres, ne peut jamais jouir de tranquillité et de contentement tant qu'elle demeure prisonnière de ses viles aspirations au plaisir sensuel et à l'approbation populaire. La divinité est un océan infini de béatitude et de gloire. Les esprits humains sont des cours d'eau plus petits qui, provenant à l'origine de cet océan, cherchent toujours, dans toutes leurs errances, à y retourner et à se perdre dans cette immensité de perfection. Quand ils sont arrêtés dans ce cours naturel par le vice ou la folie, ils deviennent furieux et enragés. Et, se gonflant en un torrent, ils répandent alors l'horreur et la dévastation dans les plaines avoisinantes. C'est en vain que chacun, par des formules pompeuses et des expressions passionnées, conseille aux auditeurs crédules ce qu'ils recherchent personnellement et les invite à imiter sa vie et ses manières. Le cœur dément la contenance extérieure et ressent vivement, même dans les plus grands succès, la nature insatisfaisante de tous ses plaisirs qui le détournent de son véritable objet. J'examine l'homme voluptueux avant son plaisir. Je mesure l'impétuosité de son désir et l'importance de son objet. Et je m'aperçois que tout son bonheur provient uniquement de la précipitation de la pensée qui le dérobe à lui-même et détourne son regard de sa faute et de sa misère. Je le considère un moment après, quand il a joui de ce plaisir qu'il recherchait comme un forcené. Le sentiment de sa faute et de sa misère revient vers lui avec une double angoisse. Son esprit est tourmenté par la crainte et le remords, et son corps est abattu par le dégoût et la satiété. Ô philosophe, ta sagesse est vaine et ta vertu inutile. Tu recherches l'applaudissement ignorant des hommes, non les réflexions solides de ta propre conscience, ni la plus solide approbation de cet être qui, d'un seul regard de son œil qui voit tout, pénètre l'univers. Tu es sûrement conscient de la vacuité de ta prétendue probité, tandis que, te nommant citoyen, fils, ami, tu oublies ton suprême souverain, ton véritable père, ton plus grand bienfaiteur. Où est l'adoration due à l'infinie perfection? D'où provient toute chose bonne et estimable? Où est la gratitude due à ton Créateur qui, te tirant du néant, t'a appelé à l'existence, qui t'a placé dans toutes ses relations avec tes semblables, et qui, exigeant que tu remplisses les devoirs de chaque relation, t'interdit de négliger ce que tu dois à lui-même, l'être le plus parfait, avec qui tu es en connexion par le lien le plus étroit. Tu es à toi-même ta propre idole. Tu voues un culte à tes perfections imaginaires, ou plutôt, conscient de tes imperfections réelles, tu ne cherches qu'à tromper le monde et satisfaire ta fantaisie en multipliant tes admirateurs ignorants. Ainsi, non content de négliger ce qui est le plus excellent dans l'univers, tu désires y substituer ce qui est le plus vil et le plus méprisable. Considère toutes les œuvres sorties des mains humaines, toutes les inventions de l'esprit, domaine où tu affectes un discernement si délicat. Tu te rendras compte que la plus parfaite production provient toujours de la plus parfaite pensée, et que c'est l'esprit seul que nous admirons quand nous accordons nos louanges aux grâces d'une statue bien proportionnée ou à la symétrie d'un superbe édifice. C'est le statuaire ou l'architecte que nous avons en vue, et c'est lui qui nous fait réfléchir à la beauté de son art, de sa capacité d'invention qui, d'un tas de matières informes, peut extraire de telles expressions et de telles proportions. Cette beauté supérieure de la pensée et de l'intelligence, tu la reconnais toi-même, puisque tu nous invites à contempler l'harmonie des affections, la dignité des sentiments et toutes ces grâces de l'esprit qui méritent surtout notre attention. Mais pourquoi t'arrêter soudainement? Ne vois-tu rien d'autre qui soit estimable? En applaudissant avec ravissement à la beauté et à l'ordre, ignores-tu encore où l'on trouve la beauté la plus accomplie, l'ordre le plus parfait? Compare les œuvres de l'art à celles de la nature. Les premières ne sont que des imitations des secondes. Plus l'art approche de la nature, plus il est estimé parfait. Mais comme sont encore lointaines ces plus étroites approches, et quel intervalle ne peut-on pas observer entre eux? L'art copie seulement l'extérieur de la nature, délaissant l'intérieur, les ressorts et les principes les plus admirables qui dépassent son imitation, en tant qu'ils sont au-delà de sa compréhension. L'art ne copie que les petites productions de la nature. Désespérant d'atteindre cette grandeur et cette magnificence qui étonnent tant dans les œuvres magistrales de l'original. Se peut-il que nous soyons assez aveugles pour ne pas découvrir une intelligence et un dessein dans l'arrangement exquis et le plus prodigieux de l'univers? Se peut-il que nous soyons assez stupides pour ne pas éprouver les plus chaleureux transports de ferveur et d'adoration en contemplant cet être intelligent et si infiniment bon et sage? Le bonheur le plus parfait doit sûrement venir de la contemplation de l'objet le plus parfait. Mais qu'y a-t-il de plus parfait que la beauté et la vertu? Et où trouver une beauté qui égale celle de l'univers ou une vertu qui puisse être comparée à la bienveillance et à la justice de la divinité? Si quelque chose peut diminuer le plaisir de cette contemplation, ce doit être soit l'étroitesse de nos facultés qui nous dissimule la plus grande partie de ces beautés et de ces perfections, soit la brièveté de notre vie qui ne nous accorde pas assez de temps pour nous en instruire. Mais notre réconfort, c'est que si nous employons dignement les facultés qui nous ont été assignées, elles s'élargiront dans un autre état d'existence afin de faire de nous des admirateurs plus dignes de notre Créateur. Et cette tâche, qui ne peut jamais finir dans le temps, sera le travail de l'éternité.